Okay, please, if you don't speak English, sorry. If you don't speak French and you need translate, just put your hand. Okay, it's okay, okay, okay. Je ne sais pas comment dire Lingala, voilà, ok. Nous sommes très, très heureux d'être là ce matin pour ensemble continuer à louer le Seigneur, à le célébrer. C'est vraiment une joie, voilà, d'être là. Et j'ai beaucoup été touché par le témoignage, voilà, de notre papa et de notre maman. C'est touchant de voir des parents touchés. Et je prie vraiment que le Seigneur, dans sa grâce, voilà, me garde fidèle à lui toute ma vie, que... arriver aussi à cet âge, je puisse continuer à servir le Seigneur, à rester attaché à lui et à pouvoir prodiguer des conseils aux plus jeunes en disant, voilà, celui qui dit que Jésus n'est pas bon, il n'a qu'à goûter et voir combien il est bon et de marcher avec lui. Depuis quelques semaines, en tant que famille, nous avons commencé à survoler l'évangile de Matthieu et particulièrement dimanche dernier, on a ouvert un chapitre où on survole les paraboles de Jésus. Et ce matin, je vais juste continuer à nous orienter, à nous conduire dans ce survol des paraboles de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Voilà. Mais juste avant, je ne sais pas si cette photo vous dit quelque chose. Voilà. Je sais que Denise et Paul étaient là au premier culte. Ouais, on était contents de voir le bébé. Mais là, ils sont quand même un peu plus grands. Voilà. Si on enlève les tenues vestimentaires qui sont différentes, quand vous regardez juste les visages, la coupe de cheveux, voilà, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les deux? Est-ce que c'est la même personne? Et puis on a fait un montage, ou bien ce sont deux personnes différentes? Quand vous regardez la photo, est-ce que vous arrivez à faire facilement la différence entre les deux, entre les jumelles? C'est facile? Pas évident, voilà. Ok. Armel, est-ce que tu arrives à les différencier? Non, c'est difficile. On a l'impression que c'est la même personne, et puis on a fait un montage, et puis on a mis l'une à côté de l'autre, n'est-ce pas? C'est vraiment difficile. On a l'impression que c'est la même personne. Ok. Mais regardez maintenant la seconde photo. Et là, sur cette photo, est-ce que vous arrivez à les distinguer? Est-ce que c'est la même personne? On a fait montage sur Photoshop. Oui, Ida, c'est la même personne ou bien? Est-ce que tu arrives à les distinguer? Est-ce qu'on arrive à les différencier? Si, si. Un peu, n'est-ce pas? Voilà. Citer quelques éléments qui les différencient, oui. Les lunettes, ah, ça aide. Ah, cake. Les lunettes, oui. La forme du visage, la coupe des cheveux, voilà. Ce sont aussi deux jumelles. Maintenant, voilà, qui sont beaucoup plus mûrs maintenant, voilà. Donc, on arrive un peu à mieux les distinguer comparé à la première image qu'on a vue précédemment où les jumelles étaient quasiment semblables. Mais là, elles ont pris de l'âge, voilà, elles ont acquis de l'expérience, voilà. Elles sont mûres et on arrive à distinguer, je veux dire, entre les deux. Et pourtant, elles sont jumelles, il y a beaucoup de ressemblances, mais on arrive quand même à distinguer. On peut dire que, par exemple, à gauche, c'est mamie Gisèle et puis à droite, c'est mamie... Justine, n'est-ce pas? On arrive à les distinguer. Voilà. Mais au début, c'était un peu difficile. Juste ces quelques photos pour introduire notre parabole de ce matin à la suite de ce qu'on a vu dimanche dernier où on a commencé avec la parabole du semeur, où il a semé sur plusieurs types de terres et on a vu la réaction que ça a donné ou comment est-ce que les terres ont réagi face aux semences. Mais avant de venir à notre texte qui se trouve dans Matthieu 13, à partir du verset 24, j'aimerais juste, en quelques minutes, replacer un peu le cadre, le contexte général de ces paraboles que Jésus adresse pour essayer de tirer des éléments qui vont nous aider à comprendre quelques éléments des paraboles de Jésus. Quelques éléments par rapport au contexte général. Donc, quand on a commencé à survoler l'évangile de Matthieu, on a vu que Jésus a commencé à enseigner Matthieu 5, 6 et 7, les lois du royaume ou encore le serment sur la montagne. Et après cela, on a vu que Jésus il a proclamé, il a manifesté le royaume de Dieu au travers des guérisons, au travers des délivrances, au travers du pardon des péchés, au travers de, je veux dire, de, le fait de chasser les démons. Il a manifesté le royaume de Dieu. Et juste après ça, même pendant qu'il était déjà en train de manifester cela, on a commencé à voir un peu de tension, des personnes qui n'acceptaient pas son message, qui le rejetaient. Mais à la suite de cela, Jésus a choisi 12 apôtres pour les prendre avec lui, pour les former de manière intentionnelle, et il les a envoyés aussi pour aller proclamer aussi le royaume de Dieu. Ce que Jésus a commencé à faire, il a choisi 12 personnes et il les a envoyés pour aussi proclamer le royaume de Dieu. Et tout ceci se déroule dans un climat de tension, dans un climat de conflit grandissant entre Jésus et certains Juifs, notamment les responsables parmi les Juifs, certains pharisiens, certains sadducéens. Ça veut dire qu'ils n'acceptaient pas que Jésus était le Messie. Ils disaient, mais comment est-ce que Jésus peut se permettre de dire qu'il pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais pourquoi Jésus dit cela? Comment Jésus peut permettre aux gens de se lever et de marcher, d'être guéris le jour du sabbat? Donc plusieurs personnes refusaient de croire en Jésus. Plusieurs personnes rejetaient Jésus comme le Messie. Ils disaient même, en fait, c'est par Belzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. Donc c'est le climat, je veux dire, de tension. C'est un climat de conflit dans lequel se retrouve ce récit où Jésus poursuit son enseignement. Quand on étudie l'évangile de Matthieu, c'est la troisième partie des enseignements de Jésus. Et il enseigne avec des paraboles. Comment est-ce que ce matin le Seigneur veut nous parler au travers de cette parabole-là? Matthieu, chapitre 13, du verset 24 à 30. Je veux faire la lecture pour nous. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? » « Non, » répondit le maître, « car en enlevant la mauvaise herbe, vous risquerez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Alors, Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. En lisant cette parabole, avec l'explication que Jésus donne, il y a une première chose qui a attiré mon attention. C'est qu'on parle d'un homme qui avait un champ. On parle d'un propriétaire qui avait un champ et qui a semé dans ce champ de la bonne semence, du bon grain. Mais on est choqué par la suite de lire qu'un ennemi a pu venir pour y semer de la mauvaise graine. La première chose qui m'a interpellé, qui m'a poussé à réfléchir, c'est le travail de préparation du terrain avant la semence. Et en lisant ça, j'ai partagé ça au premier culte, je me suis rappelé d'à l'époque quand j'étais plus petit et que pendant les vacances, j'allais chez ma grand-mère pour passer les congés. Elle nous amenait souvent dans son champ. Et elle nous montrait comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'il faut désherber, comment est-ce qu'il faut préparer le terrain, comment est-ce qu'il faut semer, comment est-ce qu'elle faisait, elle dressait une haie pour protéger le terrain. Avant de semer, le propriétaire du champ fait un travail pour pouvoir préparer le terrain. Il prend le temps de désherber, il prend le temps de débrousser, il prend le temps de nettoyer, il prend le temps, je veux dire, certains utilisent même des engrais pour enrichir la terre. Et après, il dresse une haie de protection autour du champ pour pas que des animaux sauvages ou bien que des gens viennent voler. Mais en plus de ça, d'autres qui ont encore des moyens assignent même, je veux dire, des gens pour surveiller le champ. Donc c'est un travail considérable qui est fait. Les conditions sont réunies pour que la semence soit apportée sur un terrain sécurisé. Mais comment expliquer que dans ce texte, malgré toute la préparation, malgré toutes les précautions, malgré tout ce qui a été fait au préalable, qu'il y ait un ennemi qui soit quand même parvenu à semer de la mauvaise semence dans le champ. Comment expliquer cela? Qu'un ennemi ait pu pénétrer pour semer la mauvaise herbe dans le champ de cet homme? Jésus nous donne l'explication de la parabole plus bas, mais je vais aller plus loin. Si Dieu est bon et tout-puissant, qu'il est le créateur du ciel et de la terre, et que le mal est vraiment mal, alors pourquoi il permet qu'il y ait le mal dans ce monde? Si Dieu est tout-puissant et qu'il est bon, qu'il est celui qui a créé le ciel et la terre, et que le mal est vraiment mal, mais pourquoi? Comment est-ce qu'il permet qu'il y ait le mal sur la terre? Comment expliquer que le maître de la moisson, qui a préparé le terrain, qui a dressé une haie de protection, qui a tout fait, qui a préparé le terrain pour que la bonne semence soit mise dans son champ, comment expliquer, il a même mis des gardes, comment expliquer qu'il y ait quand même un ennemi qui soit passé pour semer de la mauvaise graine dans son champ? Comment expliquer cela? Comment expliquer que Dieu soit bon et tout-puissant et qu'on vive ce qu'on vit actuellement? Au premier culte, on a prié pour ce qui se passe actuellement en Turquie, en Syrie. Si Dieu est bon et tout-puissant, mais pourquoi? Pourquoi des séismes en Turquie? Et au fil des jours, on ne fait que découvrir le nombre de personnes mortes ne fait que s'augmenter. Hier encore, j'ai appris, j'aime bien le foot, qu'il y a un joueur ghanéen, un sportif ghanéen, qui a été retrouvé mort. Mais Dieu, n'est-ce pas toi qui as créé la terre? Mais pourquoi tu permets ça? Mais tu es où, Dieu? Des enfants, des innocents qui n'ont rien fait. Mais il est où, Dieu? Le temps me manque pour parler de ce qui se passe en Ukraine. Ça fait un moment que la guerre est là et on commence à s'habituer. Même les nouvelles au niveau des informations. Au début, c'était en rouge, breaking news. Mais maintenant, c'est maintenant en noir. C'est comme si on s'habitue à ça. Et le nombre de morts, des enfants, des innocents, des citoyens moyens qui n'ont aucun problème, qui n'ont rien fait. Mais ils meurent sous le coup des bombes. Mais le propriétaire du champ, mais où es-tu? Mais le propriétaire du champ, mais est-ce que tu n'as pas loué des moissonneurs pour protéger? Non, le temps me manque pour parler de ce qui se passe depuis plusieurs années au Congo. Congo Malamu, Congo Kitoko, la RDC. Ce n'est pas la, ce ne sont, c'est, on ne parle pas des rez-de-chaussée, non, on parle de la République démocratique du Congo à l'Est. On en rigole, mais parfois tu lis des histoires des femmes. Des petites filles. Des petites innocentes. Dieu nous a fait la grâce depuis quelques années d'être parents. Il suffit juste que Loïs ou Nathaniel aient même une petite fièvre. Je commence à trembler. Mais des petites filles qui ne peuvent pas aller à l'école, mais qui sont violées. Mais Dieu, mais tu es où? Le temps me manque pour parler de ce qui se passe au pays du jasmin, le pays dans lequel le Seigneur nous fait la grâce de vivre. Il y a quelques mois, il y a eu cette tragédie à Zarzis. Non, le temps me manque de parler de comment est-ce que la pauvreté ne fait que s'accroître. Il suffit d'aller dans la rue. Quand on était étudiant il y a 10 ans, 13 ans en arrière, c'est vrai qu'il y avait des mendiants dans la rue, mais c'était moins que maintenant. Le taux a augmenté, il a explosé. Mais la pauvreté. Mais Dieu, tu es où? Mais le maître de la moisson est où? Il est où le chef de la moisson? Certains peuvent se ramener à cette même question à elles-mêmes. Mais Seigneur, mais pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai toutes ces souffrances physiques, émotionnelles, financières? Mais pourquoi toutes ces tragédies dans ma vie? Mais tu es où, Seigneur? Tu es où? Si Dieu est bon et tout-puissant, et que le mal est vraiment mal, pourquoi le mal existe? Pourquoi Dieu permet le mal? C'est une question qui est difficile et qui demeure. Parce que nous, en tant qu'humains, qui avons été créés par Dieu, on n'arrive qu'à comprendre les éléments que Dieu a créés. Mais le mal n'a pas été créé par Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu est bon, il est l'auteur éternel de tout bien. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il y a un ennemi qui est l'auteur du mal, qui est celui qui a péché depuis le commencement et qui est celui qui apporte le mal, qui est venu semer le mal dans le jardin de Dieu, dans le jardin du propriétaire. Mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. Non, 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 non. Mais et nous également, nous, en tant qu'humains, on a choisi de se détourner de Dieu, qui est l'auteur du bien, pour suivre le mal. Et nous avons suivi celui qui a amené le mal dans le monde. C'est Satan, le diable. Et nous aussi, nous sommes rébellés contre Dieu. Nous avons choisi la voie du mal. Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est que même si l'ennemi est venu semer le mal dans le champ, le maître de la moisson demeure au contrôle. Il demeure au contrôle. Non, non, le mal ne dépasse pas le maître de la moisson. Il demeure au contrôle. Il reste souverain et il est capable de contenir. Il est capable, je veux dire, de contrôler le mal et ses conséquences. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. C'est la raison pour laquelle il est venu. Jésus l'a expliqué. Le champ, c'est l'image du monde, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui a créé le monde. Et dans tout ce que Dieu a créé, était bon, c'était même très bon, on voit cela dans Genèse. Il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de péché. Mais on voit comment le péché est arrivé dans le monde. Adam, elles vont choisir de se rébeller contre Dieu pour suivre la voie du mal. Et ça nous a entraînés dans le mal, dans les guerres, dans tout ce qu'on voit. C'est nous les hommes qui avons choisi cela. Et ce n'est pas juste Adam et Ève. Romains 3 nous rappelle que nous tous, personne ne cherche le bien. Nous sommes tous dans le mal. Nous sommes tous en rébellion contre Dieu. Et nous choisissons de vivre loin de Dieu. Nous choisissons de vivre loin de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. C'est pourquoi il a envoyé effectivement. Pour régler cette question du mal et du péché. Pour régler cette question du problème qui a eu lieu dans le jardin. Il a envoyé effectivement Jésus pour régler ce problème du péché et du mal. Et si je viens au contexte de la parabole, les pharisiens, les responsables des Juifs ont refusé de croire en Jésus comme le Messie. Et pourtant, il a manifesté le royaume de Dieu en ayant autorité sur le mal et sur ses conséquences. Il pardonnait les péchés, il guérissait les malades, il chassait les démons, mais ils ont refusé. Mais c'est à cause de ce mal et de ses conséquences que Dieu également a envoyé Jésus. C'est lui qui est ce Messie, c'est lui qui est ce Sauveur que Dieu a envoyé dans le jardin pour apporter le salut. Oui, nous constatons que la mauvaise graine a été semée dans la moisson. Oui, nous constatons que le mal est arrivé. Mais notre Dieu demeure bon éternellement et il demeure au contrôle. Et il a pourvu à la solution en envoyant Jésus pour régler ce problème du mal. Il est au contrôle et il est bon. Il n'est pas simplement tout puissant, mais il est bon. Il est bon et il nous aime. Dieu pouvait nous laisser dans cet état. On voit dans le texte, n'est-ce pas? Il y a eu la mauvaise herbe qui est arrivée. Les moissonneurs ont dit, mais Seigneur, est-ce qu'il ne faut pas qu'on coupe en même temps? Il a dit, non, laissez croître ensemble. Et à la fin, les moissonneurs arriveront. Laissez croître ensemble. Oui, Dieu, dans sa grâce, nous laisse le temps de vivre, nous donne la possibilité de saisir sa bonté, nous donne la possibilité de saisir sa grâce, nous donne la possibilité. Dieu pouvait automatiquement demander aux gens de couper, mais il a dit non. Parce qu'il est bon. Il est plein de bonté, ce Dieu. Malgré notre choix du mal, malgré notre choix de la rébellion contre Dieu, malgré notre choix de vivre dans le péché, ce Dieu-là demeure bon. Et dans sa bonté, il nous a visités au travers de Jésus. Et il voulait le faire comprendre aux responsables, mais ils l'ont rejeté. Et c'est ce même message que ce Dieu-là nous adresse ce matin au travers de cette parabole. J'aimerais poser une autre question, mais comment expliquer alors la présence de l'ivraie, même dans l'Église? Comment expliquer? Ce même Dieu demeure bon et plein d'amour. Dans le texte, on voit qu'il a laissé pousser et à la fin, la mauvaise herbe a été prise et brûlée au feu. Matthieu utilise beaucoup cette image, brûlée au feu, même dans Matthieu 25, quand il parle du jugement dernier, voilà, ils seront brûlés dans ce lieu de tourment. Et quand il en parle, j'ai envie de dire, c'est avec une marque de tristesse, parce que Dieu ne prend pas plaisir à voir l'homme détruit. Dieu ne prend pas plaisir à voir l'homme être détruit, non. Dans le texte, on voit que la mauvaise herbe, à la fin, a été brûlée. Mais notre Dieu, qui est le Créateur, est capable de changer des personnes qui ressemblent à la mauvaise herbe en faisant de ces personnes du blé. Notre Dieu est capable, il est capable de transformer les cœurs des hommes et des femmes qui étaient rebelles contre Dieu, des hommes et des femmes qui étaient des pécheurs notoires. Notre Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi il a envoyé Jésus et il nous invite à saisir cette grâce qu'il nous donne en Christ. Oui. L'ennemi est arrivé et il a semé la mauvaise graine dans le champ. Mais notre Dieu demeure au contrôle. Notre Dieu demeure au contrôle. Il a tout pouvoir. Et dans sa bonté, il donne la possibilité à chacun d'entre nous de saisir sa grâce en Jésus. Jésus termine en expliquant la parabole au verset 43. Il dit que les justes, l'image ici de la bonne semence, du blé, resplendiront dans le royaume comme le soleil. Je me suis posé la question de savoir, mais on a parlé de la mauvaise graine qui a été apportée par l'ennemi, n'est-ce pas? Mais les justes qui vont resplendir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter de resplendir dans le royaume? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le texte, les justes qui resplendiront n'ont rien fait. Le texte nous parle de la bonne semence qui a été portée, n'est-ce pas, par le propriétaire de la moisson. C'est une semence qui a été portée en terre. Elle n'a rien fait pour mériter de resplendir. En fait, la bonne semence, le bon blé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le bon blé, ce qui symbolise le bon blé, la bonne semence, la bonne moisson qui va resplendir comme le soleil dans le royaume de Dieu, ces personnes ont juste cru à la grâce de Dieu offerte par le Christ et se sont accrochées à cette grâce malgré les intempéries. La seule chose, je veux dire, que ce qui ressemble, ce qui symbolise la bonne semence, le bon blé, ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont reçu le cadeau immérité de Dieu. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Ils ont accepté par la foi de recevoir cette grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, la grâce du pardon du péché, la grâce de la réconciliation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ils peuvent resplendir. Ils n'ont rien fait, si ce n'est d'accepter le cadeau que Dieu leur a donné au travers de Christ, la parole de Dieu. Et ces personnes se sont simplement accrochées à cette grâce, sont demeurées en Christ. Et toute leur vie, ces personnes ont demeuré en Christ, comme la semence, malgré les intempéries, malgré la pluie, malgré le soleil. Ces semences sont demeurées en Christ, sont demeurées dans la grâce de Dieu en Christ. Comme Jean 15 nous le dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi, tout comme les branches demeurent attachés au tronc et bénéficient de la sève. De même, ces personnes ont juste bénéficié de la grâce de Dieu et sont restées attachées à la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle il leur fait cette promesse, il leur accorde ce cadeau de resplendir dans son royaume. Je termine. Dieu, le maître de la moisson, celui qui a semé le bon gré dans sa moisson, malgré l'irruption de la mauvaise moisson, il demeure au contrôle. Il demeure au contrôle. Et il veut nous accorder la grâce de recevoir le salut afin de pouvoir porter du fruit pour sa gloire. Et je termine avec cette belle image de Jean 15. Elle ne dit pas que la branche produit du fruit. Non, elle dit la branche porte du fruit. L'image, elle est forte. C'est le téléphone d'Alain qui me le donne. Je porte le téléphone d'Alain. Ce n'est pas moi qui ai produit, qui ai fabriqué. C'est différent. Le produit, c'est comme si ça venait de moi, non. Mais quand je porte, ça vient d'Alain. J'ai juste porté. Et j'aime bien cette image dans Jean 15. Ces personnes qui demeurent attachées au cèpe, à Christ, porte du fruit, parce que ce fruit vient de Christ. C'est le fruit de la grâce de Dieu en Christ. Merci. Ce Dieu, ce maître de la moisson, malgré le fait que la mauvaise semence ait été envoyée dans sa moisson, demeure au contrôle. Il demeure au contrôle. Et dans ce texte, oui, c'est une image en parlant des grains. Ici, on ne parle pas de transformation des grains. C'est naturel. Mais j'ai envie de dire de manière plus forte, ce Dieu-là est capable de transformer de la mauvaise semence en bonne semence. ce Dieu est capable de transformer des personnes qui étaient des esclaves de Satan, des personnes qui étaient esclaves du péché, qui se levaient contre Dieu. Ce Dieu d'amour est capable de les toucher, de les transformer par sa grâce et de les transformer en enfants de Dieu, en blé qui donne, qui resplendit pour la gloire de Dieu. Ce Dieu qui est au contrôle est capable de le faire. Et la dernière image de ces, de ces épis qui resplendit dans son royaume. Quand ça resplendit, n'est-ce pas? Ça se voit. Quand le fruit resplendit, la branche qui porte du fruit, ça resplendit. Mais en fait, c'est aussi ces mauvaises graines qu'il est capable de transformer en bonnes graines. C'est aussi pour qu'elles brillent, que la grâce de Dieu en elles puisse briller et montrer la faveur de Dieu pour dire à la mauvaise graine, vous êtes loin de Dieu, mais ce Dieu de grâce est capable de vous ramener. Regardez ce qu'il a fait dans ma vie. Moi aussi, j'étais une mauvaise graine. Moi aussi, j'étais enfant du diable. Moi aussi, j'étais esclave du péché. Mais la grâce de Dieu, au travers de Jésus-Christ, m'a transformé, m'a guéri, m'a délivré. Alors, je peux resplendir. Pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, non. Mais la grâce de Dieu en moi resplendit. Et les autres peuvent voir le fruit du Seigneur et disent, oui, je veux aussi ce Dieu de grâce. Je veux aussi ce Dieu bon. Je veux aussi ce Dieu plein de compassion. Je veux me réconcilier avec ce Dieu qui est tellement bon. Et il est bon. Et il a exprimé sa bonté en Jésus. Je vais terminer avec cette belle image dans Apocalypse. L'espérance que ce Dieu de grâce nous donne. Que dans le nouveau ciel, dans la nouvelle terre, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de maladies. Ça, c'est quand il reviendra. Mais pendant qu'on est encore là, dans la terre dans laquelle on a le malin, l'ennemi a mis la mauvaise terre, oui, il y a encore des souffrances. Oui, il y a encore des guerres. Oui, il y a des choses qui arrivent qui nous attristent et qui attristent aussi Dieu. Mais il reste au contrôle. Il reste au contrôle. Et il désire aussi transformer ces personnes qui sont sous l'esclave de Satan, sous l'esclave du péché, en blé, en enfants de Dieu, pour resplendir davantage, non seulement dans ce pays en Tunisie, dans nos familles, mais aussi partout, partout. Être des personnes qui resplendissent et qui révèlent la grâce de Dieu, l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ. Quelle est la réponse que nous donnons à cette invitation du Seigneur, à la grâce que Dieu nous offre en Jésus? Dans le contexte des paraboles, les responsables, les Sadducéens, ils ont rejeté. Ils ont dit, on ne veut pas, tu n'es pas le Messie. Non, on ne peut pas croire en toi. Non, ce n'est pas toi qui peux nous sauver. Non, ce n'est pas toi qui pardonne les péchés. Non, ils ont rejeté. Mais ce matin, ce Jésus nous invite à recevoir la grâce de son amour, à recevoir le pardon des péchés, à croire qu'il est le Messie. Il est le Messie qui nous aime, qui reste bon et qui est venu pour nous donner sa vie. Quelle est la réponse que nous donnons à cette invitation ce matin? J'aimerais nous inviter à prendre quelques minutes maintenant dans le silence pour réfléchir à cette invitation d'amour de Jésus qui nous invite à saisir la grâce du salut, la grâce du pardon des péchés, la grâce de la réconciliation avec le Père. Quelle est la réponse que nous donnons? Est-ce que nous le rejetons? Ou est-ce que nous disons, Seigneur, par la foi, j'accepte le cadeau de ta grâce? Prenons ce temps maintenant dans la prière pour répondre à notre Seigneur. Te remercions ce matin, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que ta parole est une preuve de ton amour pour nous. C'est parce que tu nous aimes que tu nous parles, Seigneur. Tout comme un père aime son enfant et l'instruit, c'est parce que tu nous aimes que tu nous parles au travers de ta parole. Et ce matin encore, merci pour la parabole du blé et de l'ivraie. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de ce monde, tu es au contrôle de nos vies. Tu n'es pas l'auteur du mal, non, Seigneur. Mais tu contrôles le mal, tu contrôles ses conséquences. C'est à cause de notre mal que tu as envoyé ton Fils Jésus par amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner, mais non, mais au contraire, pour nous sauver. Et Seigneur, ce matin encore, au travers de ta parole, tu nous invites à saisir ce cadeau immérité, cette grâce du salut en Jésus. Je prie pour que tu nous donnes de pouvoir accepter cette grâce et de pouvoir persévérer, demeurer dans cette grâce toute notre vie. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais nous inviter, pour ceux et celles qui le peuvent, à nous tenir debout. Nous allons terminer avec ces paroles, cette promesse du maître de la moisson qui détient toutes choses. Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Écoutez cette belle promesse. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est le maître de la moisson qui nous promet cela. Ce Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie, Seigneur, pour que l'espérance de la pleine manifestation de ton salut en Christ que tu nous promets dans ta parole, garde nos yeux fixés sur toi et que durant cette semaine, durant toute notre vie, tu nous donnes de pouvoir resplendir de ta grâce pour que plusieurs personnes autour de nous puissent voir Christ au travers de nous et puissent revenir à toi. Seigneur, bénis cette semaine, console-nous, Seigneur, et garde-nous fidèles à toi. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, que sa grâce nous accompagne. Dieu demeure au contrôle. Il demeure au contrôle et il vient à notre secours. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Amen. Amen. Merci.